Alors, on y va. Alors, la semaine dernière, nous avons évoqué, hein, l'esprit de querelle, de division qui régnait dans cette église à Corinthe. L'un des problèmes de tout ça, c'est qu'il y avait beaucoup de messages contradictoires. Sur Dieu, sur l'évangile, sur le mariage, sur la moralité, sur la scène, les dons spirituels et toutes ces choses-là. Voilà pourquoi Paul, comme c'est l'Église que c'est lui qui a formé, il a voulu mettre les choses en place. Et donc, il nous rappelle toutes ces choses-là, des messages contradictoires. Et Paul en appelle. Il appelle l'Église et nous aussi à avoir confiance en Dieu, à avoir confiance dans les enseignements que Dieu nous a laissés dans sa parole. Et bien sûr, une telle attitude, elle est taxée de folie. Mais Dieu, il nous rappelle dans 1 Corinthiens 25 qu'il dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Voilà ce que Dieu nous dit. Le monde dit que c'est une folie, mais Dieu nous dit non, c'est ça la sagesse. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est faisons-nous confiance à Dieu, à son message? Est-ce que lorsque nous lisons la parole, nous disons « c'est Dieu qui dit ces choses-là » et je dois les observer, je dois me laisser diriger par ces choses-là. Et c'est dans une confiance absolue, dans la sagesse suffisante de Dieu, que nous vivrons une vie agréable à Dieu, si nous faisons confiance en Dieu. Regardons, continuons à voir 1 Corinthiens, lisons les versets 18 à 22. On va voir, c'est les morceaux 18 à 25, mais regardons de 18 à 22. Et ce morceau-là s'intitule « La folie de la croix ». 18 à 22.
Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 24.
Oui,
mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu.
Voilà, ici, il nous le dit clairement, c'est la folie de la croix. Pour qui c'est la folie? Pour ceux qui périssent, il nous le dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Si vous remarquez bien le verset, il commence par le mot « car ». Car. Hein? Et ce « car » se réfère à la phrase précédente, où Paul, il parle de la sagesse de Dieu. De la sagesse. Il y a le contraste entre la sagesse, pas la sagesse de Dieu, mais la sagesse de l'homme. Il y a le contraste entre la sagesse du langage et la sagesse de Dieu. C'est ça que Paul veut nous montrer. L'homme, et ce message, vous savez, il est simple et il est clair. L'homme, oui.
J'aime bien le mot, la parole de la croix.
Exactement, la mais c'est ça le, je vous ai dit qu'il commence par le mot « car ». Et c'est là que Paul il met en contraste la sagesse du langage, verset 17, on va le lire, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage. Alors cette sagesse du langage, elle est mise en constat, en contraste avec la sagesse de la croix. La croix. Et c'est ça qui est plus important. Ce message est très simple. C'est que l'homme n'attendra jamais le salut sans la croix.
J'ai discuté pendant 10 heures, il doit être fait bien raison, d'un tel qui n'a rien. Pendant 3 heures, je dis à la
directe. C'est ça. Aucune bonne œuvre, aucune œuvre philanthropique, aucun acte de nous, il arrivera à nous sauver. La seule chose qui nous sauve, c'est la croix. Mais ici, elle est appelée la folie de la croix. Mais pour qui la folie de la croix? Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Vous vous rendez compte, lorsqu'on parle de Dieu, nous lui disons que Jésus est un Dieu, il est mort sur la croix. Il m'a nourri, on est. Comme un Dieu, il est mort sur la croix. Il n'y avait pas une autre solution là, lui qui est Dieu.
Il a travaillé ça, il a grandi.
Oui, non mais voilà. Mais pour ça que c'est la folie. Lorsque vous parlez à ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vous disent, mais c'est une folie de croire ça. C'est une folie. Mais Dieu, c'est le moyen que Dieu il a choisi. Parce que les choses, c'est Dieu qui les choisit. Ce n'est pas l'homme. Beaucoup d'hommes, ils ont essayé d'échanger le salut, de lui donner une autre dimension. Mais c'est Dieu qui a préparé tout ça. Voilà pourquoi Dieu est mort sur la croix. Quelle folie! Quelle folie! On dit que Dieu est puissant, on dit que Dieu est ça, et ça, et ça, et il meurt sur la croix. C'est un peu ce qu'ils disent les musulmans. Hein. C'est exactement ce qu'ils disent les musulmans. Et encore une fois, ce message, il est simple. Et ce message, il engendre deux réactions. La première, c'est la moquerie. La deuxième réaction, c'est la confiance, comme nous on a fait, n'est-ce pas? Quelqu'un il nous a prêché l'évangile, il nous a montré notre état de pécheur, et il nous a dit, tournez-vous vers le Seigneur, tournez-vous vers la croix, et vous serez sauvés. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait confiance.
Mais la fille a le bouton, son bébé sur la croix. Descends la croix,
c'est ça là. Et c'est la moquerie. Et ceux qui refusent ce message, Paul, il est décrit comme périssant. C'est-à-dire, ils sont vivants, mais ils sont morts. Ils sont périssants. En attendant la mort et en attendant, ils peuvent être sauvés. Ils sont sur la route, mais ils sont périssants parce que c'est des gens qui se moquent de Dieu au lieu de lui faire confiance. Mais Paul dit, pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Est-ce que nous le croyons que lorsque nous annonçons l'évangile, elle est la puissance de Dieu. Cette puissance en grec, elle est traduite avec le mot dynamis, de laquelle on a tiré le mot dynamite. Normalement, le message de l'évangile, il doit faire éclater les cœurs. Parce que c'est la parole qui casse les cœurs les plus durs. La pierre, il la casse. Mais pour que ce cœur soit brisé, il faut qu'il fasse confiance à Dieu. C'est exactement ça qu'il nous dit. Et on peut dire, ce message de la croix, c'est quelque chose qui doit dynamiser notre vie, la vie de chacun de nous. Le dernier verset que Roland il a dit, nous sommes là que pour prêcher la croix. Et la croix seulement. Pourquoi? Parce que c'est la croix qui nous donnera cette dynamique pour pouvoir vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle n'est pas facile.
Le pont entre nous et Dieu.
Mais c'est ça. Mais la chose qu'il faut faire, c'est demander comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce que nous réagissons devant cela? Comment est-ce qu'ils réagissent ceux qui nous entourent? N'est-ce pas? On a dans nos familles des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et lorsque l'on parle de la croix, lorsque l'on parle de ce Dieu qui a donné sa vie pour nous, il nous regarde les yeux ouverts et dit, mais voilà, qu'est-ce que tu me racontes, mon mari, ma femme, mon enfant, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. C'est une folie, ils nous disent. Mais pourquoi? Vous savez, il y a deux raisons pourquoi pour ces gens-là, c'est une folie. Hein? L'homme, il aime s'appuyer sur ses propres forces. Voilà pourquoi c'est une folie. Et Paul, il cite un texte d'Ésaïe, au 8e siècle, ce texte-là. Hein? Ésaïe, c'est au 8e siècle. Hein? Il y avait la ville de Jérusalem qui devait être attaquée par les Assyriens, Sennacherib. Et alors, il voulait se tourner vers l'Égypte pour trouver du soutien, pour pouvoir combattre. Hein? Et Ésaïe énonce, il fait cette constatation et lui dit, mais vous ne pouvez pas aller vers l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte ne sert à rien. Il ne vaut pas la peine de vous tourner vers l'Égypte. Et d'ailleurs, si vous regardez dans 2 Rois 18 et 19, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu l'ange de l'Éternel qui est arrivé et il a tué 185 personnes. C'est ce qu'il leur dit, Ésaïe. Ils croient dans leur propre force. Ils font confiance à leur propre force. Il y a ce verset, je m'en souviens lequel c'est, il dit, nous nous appuyons sur les chevaux, sur les chars, mais nous, sur l'Éternel. Et Ésaïe, il a dit, mais c'est une folie de vous tourner vers l'Égypte. Vous avez l'Éternel, tournez-vous vers lui. Et dans 2 Rois, l'ange de l'Éternel est arrivé. L'homme, il veut compter sur ses propres forces. Je vais me sauver par moi-même. Ce salut gratuit, il ne l'accepte pas. Vous dites à quelqu'un en témoignant, vous savez, Dieu, il ne nous sert pas grâce. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à payer. Ah, il n'y a rien gratuit aujourd'hui dans ce monde. Voilà. Mais Dieu n'agit pas comme le monde. À qui appartient ce monde? Mais à Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu il peut donner? Qu'est-ce que c'est qu'on peut donner à Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire pour que Dieu il soit favorable à nous-mêmes? Mais rien du tout. Voilà pourquoi c'est très important de se dire, j'ai fait confiance à Dieu. Et pas sur ma propre sagesse. La sagesse du langage. Oui, on va se tourner vers les États-Unis, ils vont nous aider. On va se tourner vers cette autre nation, ils vont nous aider. Non, il faut compter sur l'Éternel. Ésaïe leur dit, l'Égypte ne sert à rien. Voilà pourquoi Paul il utilise ce verset d'Ésaïe. Hein? Et c'est ça. Le deuxième, c'est que l'homme, il aime les choses compliquées. Au verset 20, on voit cela. Hein? Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu des folies la sagesse du monde? Les gens, ils aiment bien les sages, les penseurs, les scribes, les experts religieux, les contestateurs, les philosophes. Le parler, voilà, quelqu'un qui parle bien, il parle bien, il a tant de connaissances. Et l'homme, il aime les choses compliquées. Je vous lis, il y a quelque chose, et c'est la même chose qui lui était arrivée à Paul à Athènes, vous en souvenez là? C'est ce qui lui est arrivé, hein, acte 17-21, il dit, « Tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux n'aient passé leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. » Ils se réunissaient pour écouter de nouvelles. Voilà pourquoi Paul, il est arrivé à leur dire, mais là, j'ai vu dans votre ville beaucoup de statues. Et je suis venu vous parler d'une statue qui n'est pas là, mais c'est le Créateur. Hein? Je vais vous lire ce qu'il a écrit Chess, c'est un polémiste antichrétien du deuxième siècle. Il a écrit « Dieu est bon, beau et heureux, et si un état de perfection et de magnificence, s'il descend vers les hommes, alors il va changer en meilleur. Et Dieu n'acceptera jamais un tel changement. » Parce qu'il dit, Dieu, il est bon. Si Dieu descend ici, comme vous nous dites que Dieu est descendu ici-bas, les choses vont changer. Automatiquement, Jésus-Christ, l'ange, il avait annoncé, hein, il apportera la paix, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus a apporté la paix? Il est venu ici, il nous a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la paix pour ceux qui la désirent. Mais sinon, je suis venu apporter la guerre. Voilà pourquoi il a dit, c'était quelque chose aussi pour inacceptable que Dieu descend ici sur cette terre et que Dieu meure. C'est aussi pour Pierre, vous vous en souvenez? Lorsque le Seigneur il lui dit, ah vous savez, hein, les gentils ils vont me prendre, et Pierre il dit, ah que cela ne t'arrive pas Seigneur, arrière de moi Satan. C'est pas la pensée de Dieu. Les Juifs ils attendaient un grand roi, un Messie pour les délivrer. Et qu'est-ce que Dieu il a envoyé? Un peuple qui n'avait même pas une pierre pour poser sa tête. Et par son sacrifice, il a sauvé. Mais ils ne l'ont pas accepté. Mais c'est pour cela. Vous savez, lorsque le roi est rentré à Jérusalem, il est rentré avec un cheval blanc. Lui, dans Zacharie, Ézéchiel, il nous le dit, il est rentré assis sur un anon, dans l'humilité. Voilà ça pour vous dire que la sagesse humaine n'est pas la sagesse de Dieu. N'est pas la sagesse. Voilà pourquoi, lorsque nous apportons la sagesse de Dieu, alors le monde le dit, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Il ne faut pas l'accepter. Hein? Et vous savez, les hommes, en tout temps, ils justifient les refus de Dieu. Il nous le dit au verset 22, les Juifs, ils demandent des miracles. Tandis que les Grecs, ils demandent la philosophie, le parler, la démonstration. Et c'est ça qu'il nous le dit. Les Juifs s'attendaient à des signes messianiques forts, hein, alors qu'ils n'ont vu qu'un serviteur qui a souffert. Ésaïe 53. Hein? Vous parlez d'Ésaïe 53, de Juifs. Il vous dira qu'il parle d'Israël. Commencement, l'Israël souffrant, les serviteurs, Israël. Et l'Israël glorifié, hein? Parce que Dieu il a fait des promesses à Israël. Il a dit, je vais vous ramener ici, je vais vous donner un cœur spirituel, je vais vous mettre le Saint-Esprit. Et alors il dit, bon, voilà, ça c'est pour Israël. Mais il parlait de son fils, du Messie, qui viendrait ici, dans l'humilité, qu'il aurait été tué, il aurait souffert, et ensuite, il aurait été emmené dans la gloire. C'est ça que les Juifs, ils attendaient toutes ces choses-là. Et ils ont demandé des signes. Vous vous en souvenez, les signes? Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, dit Jésus. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas, Matthieu 12, 39. Jonas, il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Et illustre le Christ qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le tombeau avant de ressortir. Et c'est ça, les Grecs, ils voulaient quelque chose de grand. Hein? Les Grecs, ils avaient cette pensée de grandeur. Mais voilà. Hein? Dieu ne leur donne que le message de l'Évangile. Il ne dit pas autre chose.
Il y a des mots qui disent, les Juifs, ils demandent et les Grecs, ils cherchent.
Ils demandent parce qu'ils savent qu'ils ont les prophéties de son côté. Les autres, les Grecs, ils cherchent. Mais ils cherchent la grandeur. Et qu'est-ce que Dieu il leur a donné? Les messages de l'Évangile.
Mais est-ce qu'on ne peut pas comparer les Grecs à Pilate qui dit « qu'est-ce que la vérité ?» alors qu'il est en face de lui.
Exactement. Mais lui, il ne l'a pas reconnu.
Ouais.
C'est ça.
Et pourtant,
C'est un peu comme nous, hein. Nous, nous disons que Jésus est la vérité. Vous allez le dire autour de vous et vous direz, mais Jésus, il n'a pas l'apanage de la vérité. Peut-être qu'il dit quelques vérités, mais il ne lui appartient pas toute la vérité. Et c'est un peu comme nous lorsqu'il dit, lorsque nous disons, je suis sauvé. Si je meurs maintenant, je vais au ciel. Oh, t'es pas, tu ne montes pas sur tes chevaux, toi? Mais non. Pourquoi? Parce que nous croyons à ce que Dieu nous dit dans la parole. Nous faisons confiance à ce que Dieu nous dit. Les Grecs cherchaient, et vous savez, Dieu leur donne que les messages de l'Évangile. Et même dans une église, on peut rencontrer de la fausse sagesse. Dans Jacques 3, 14, 15, il dit, « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient de Dieu, qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Et il y en a dans les églises des gens comme ça. À l'homme de répondre avec confiance. C'est ça que Paul lui dit. Je vous ai annoncé le message de Dieu, tous les conseils de Dieu. À vous de faire confiance à Dieu. Laissez tomber toutes ces rivalités, toutes ces jalousies qu'il y a parmi vous. C'est ça que... Faites confiance à Dieu. Hein? Et c'est la folie pour ceux qui périssent. Mais au verset 22, 25, il nous dit, c'est une puissance pour les sauver. Il dit, pour nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Mais oui, scandale, parce qu'il s'est fait Dieu, et Dieu il a été crucifié, il est mort. Mais oui. Et folie pour les païens. Oui, non, mais ça ne va pas. Dieu qui se laisse tuer, non, ça ne va pas. C'est fou. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Ça c'est les mots. Pour ceux qui sont appelés, tant juifs, hein, que grecs, car la folie de Dieu, il dit, est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.
Les fils demandent des miracles, des signes.
Des signes.
Pour approuver ce qu'ils connaissent déjà. Mais les Grecs, ils cherchent la facette du monde. Dans le monde, c'est la facette du monde.
C'est ça la folie. Mais si ce message est une folie qui fait trébucher les autres, elle est une dynamite pour chacun de nous qui avons le Seigneur dans notre cœur. Pourquoi? Et pour qui c'est une dynamite, une puissance? Pour ceux qui sont appelés.
Donc nous sommes à part des Juifs, nous sommes à part des Grecs. Il n'y a plus de Juifs ni de Grecs, il y a l'Église, il y a l'autre.
Ces mots appelés, qu'est-ce que c'est qui vous rappelle?
Et Romains 8.
Là?
Romains 8. Tout ça vous dit, pour ceux qui sont appelés, vous en avez fait.
Oui, mais qu'est-ce que c'est qui nous parle, ces mots appelés. Ces mots appelés nous parlent de l'élection de Dieu. Pour ceux qui sont appelés, il nous dit c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui sont appelés. L'élection, hein, c'est un fait. C'est Dieu choisit ceux qui lui appartiennent.
Ceux qui sont appelés.
Exactement. On trouve ça dans Éphésiens 4 et 5. Hein? Et alors, à quelqu'un qui n'est pas chrétien, il va dire, est-ce que je n'ai pas été choisi, moi? Voilà, ça c'est l'erreur qu'ils font certains gens. On est tous appelés. Car Dieu, il veut que tous y soient sauvés. Dieu, il nous voit. Dans toute présence, omniscience, il voit avant le commencement de toutes choses, lorsque Roland, quelqu'un lui parle du salut, et c'est là qu'il dit oui. C'est là que Dieu, l'élection, Ce n'est pas Dieu qui choisit. C'est-à-dire, Dieu, il veut tous qu'ils soient sauvés. Mais à un certain moment, il va y avoir quelqu'un qui va te présenter le message. Et alors, c'est toi qui dis, oui, j'accepte. Et il y a ceux qui disent, non, je ne l'accepte pas. C'est une folie ce que tu me dis. Bon, ça c'est pour ceux qui périssent. Exactement. Et l'élection, vous savez, ça doit être une assurance pour notre vie. J'ai été élu. Et si, et vous savez qu'il y a un verset qui dit, lorsque Dieu il fait une promesse, hein, ou il fait un don, il ne le retire pas en arrière. Lorsque quelqu'un il est vraiment passé par la nouvelle naissance, qui s'est vraiment repenti et qui s'est tourné vers le Seigneur, même s'il s'éloigne, hein, Dieu il fera tout pour qu'il puisse revenir, parce qu'il a été élu. Dieu ne se trompe pas. Voilà les fils prodigues. On a un bon exemple. Hein. Les fils prodigues, il a dit ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. Mais oui, et c'est ça l'élection, c'est aussi un soulagement dans l'évangélisation, lorsque nous évangélisons, parce que nous n'avons pas à convaincre. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui convainc. Et c'est la personne qui entend le message qu'il doit dire oui ou non. Voilà pourquoi des fois, je me souviens, M. Sommerville disait toujours, allons évangéliser, allons vers les élus. Parce qu'il y a des élus. Il y a des élus que Dieu il a décidé de sauver. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait la réponse. Mais sinon, Dieu veut que tous soient sauvés. Et c'est à nous d'aller vers eux et de leur annoncer. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le message de l'Évangile. Je le dis souvent, qui c'est qui doit le porter? Mais c'est nous. Croyez-vous que le diable va dire, oui, il croit au Seigneur Jésus? Ah non, il ne le dira jamais. C'est à nous. Dieu il nous a sauvés pour cela. Et pas pour rester à la maison. Vous savez, Dieu nous a donné la Bible. Hein? Mais si on ne l'étudie pas, si on ne la médite pas, comment voulez-vous parler aux autres de quelque chose que vous ne connaissez pas? Si je vais parler de l'évolution avec quelqu'un, un docteur, ben il faut que d'abord je me renseigne. Hein? Sinon, il va me boucher la bouche tout de suite. Hein? Je ne saurais pas quoi dire. Il ne faut pas seulement dire, oui, Jésus-Christ, fils de Dieu, hein, il est mort sur la croix pour nos péchés. Non, il faut montrer qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fera. Et il va revenir. C'est ça que, ça aussi, des gens ils disent, oui, on croit toutes ces choses-là, mais il ne va pas revenir. Nous sommes dans le millénium, là. Vous vous rendez compte qu'ils disent qu'ils sont dans le millénium? Vous lisez Apocalypse, le millénium se dit que Satan, il est enchaîné. Mais la chaîne doit être bien longue. Hein. Vous regardez le monde aujourd'hui, hein, c'est le péché. C'est le péché partout. Et si Satan, il est enchaîné, bien sûr, l'homme, hein, avec son cœur mauvais, il n'a pas besoin de Satan pour tomber dans les péchés. Hein. Il n'a qu'à ouvrir les yeux. Hein. C'est partout, tu regardes, où tu regardes, il y a le péché. Dans la publicité et tout ça, il y a le péché. Mais les yeux, ils sont là pour ça, pour regarder, n'est-ce pas? On voit, mais il ne faut pas arrêter le regard sur ça. Parce que si on arrête notre regard sur ces choses-là, on tombe dans le péché. David, il faisait chaud, David, alors il est sorti sur le balcon. Il regarde. Une fenêtre ouverte et une femme qui prend son bain. Voilà. Il aurait dû être à la guerre. Mais bon, les rois, ils peuvent rester. Lorsque tu vois quelque chose qui est pas bien, il faut enlever, il ne faut pas le regarder. Lui, il a regardé et il a convoité.
Cette femme était là, en plus, il avait besoin de ça.
Une femme qui prend son bain, mais voilà, il a regardé, et tout de suite il appelait son serviteur, allez, ramène-moi cette femme. Voilà. C'est ça le... Voilà pourquoi Dieu, ces choses-là, ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Nous n'avons qu'à présenter les choses, et c'est Dieu qui appelle. Et ceux qui vont répondre favorablement, et c'est là, c'est les élus. Parce que Dieu, il a vu. C'est fort, ça. Mais si vous dites ça aux gens, que Dieu, depuis les commencements, il nous a élus. Depuis le commencement de toutes choses, il nous a élus. C'est un peu dur à croire. C'est même la folie pour ceux à qui tu l'as dit. Mais Dieu, il me dit, non, ce n'est pas la folie. C'est le message de l'Évangile. Et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Et c'est là que Dieu il nous dit, car la folie de Dieu, parce qu'ils disent, c'est de la folie de Dieu de laisser que son fils soit crucifié. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Les hommes, ils auraient voulu un grand Dieu qui vienne, qui détruise tout. Non, la folie des hommes, la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte. Oui, Jésus-Christ qui s'est laissé crucifier, hein, les gens ils disent, ouais, faible. Non, c'est la puissance de Dieu. C'est grâce à ça qu'on est sauvé, n'est-ce pas? Et c'est ça que Paul, il nous dit.
En fait, donc, la faiblesse apparente de Jésus-Christ révèle sa puissance, en fait.
Mais pour le monde, cette faiblesse-là, parce qu'il s'est manifesté en tant que Dieu, c'est de la folie. Dieu, il est fou d'agir comme ça. Mais non.
Il a reflété le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, le maître de lui-même.
C'est ça. Mais encore une fois, c'est la sagesse de Dieu. Lorsqu'il appelle, il faut répondre. C'est ça. Dieu, comme on dit quelqu'un, il a dit, il est sagement fou. Parce qu'il voyait les choses comme elles étaient. Et au verset 26 et 31, on va voir la folie de la paix de ceux qui sont. On a vu la folie de ceux qui meurent, la folie de ceux qui sont sauvés. Maintenant, on va voir la folie du choix. La folie du choix. Verset 26 à 28. Verset 6 à 28. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie. Dieu, il a choisi les petits. Dieu, il a choisi les petits. Et Paul, il invite les Corinthiens. Il leur dit, considérez, regardez-vous, frères, parmi vous, est-ce qu'il y a des grandes personnes? Il n'y a que des philosophes? Il n'y a que des sages et tout ça? Non, il n'y a pas tout ça. Il y a des gens sans aucune importance. Et pourtant, Dieu, c'est à vous qui s'est tourné premièrement. Hein? Il n'a pas regardé leur rang social, non. Il ne s'y trouve rien, pas beaucoup de penseurs, pas beaucoup de puissants. Si vous avez, et vous savez, on peut se poser la question, si vous aviez été Dieu, qui aurait-vous choisi? Qui? Des hommes politiques. C'est important pour ouvrir les portes, n'est-ce pas? Qui plus qu'un homme politique qui peut ouvrir les portes? Des hommes d'affaires. Là, c'est important pour financer l'œuvre missionnaire. Il y en a beaucoup qui, des pasteurs, des évangélistes qui se tournent vers des œuvres philanthropiques pour que l'œuvre d'évangélisation puisse... Non, il n'y a que Dieu qui peut se tourner. On doit se tourner vers Dieu. C'est comme dans les dîmes et les offrandes, lorsqu'on passe. C'est aux membres de donner la dîme et les offrandes. Ce n'est pas à ceux qui viennent nous visiter. Parce que c'est à nous de tenir la maison de Dieu. Voilà pourquoi il le dit, ou sinon des stars de cinéma. Voilà. Est-ce qu'on aurait choisi, n'est-ce pas? Mais pas des esclaves comme vous étiez, il leur dit. Et pourtant, il vous a choisi. Les choix de Dieu se portent sur les petits, des gens des conditions humbles. Pas des conditions humbles. Pas avec ça, il ne dit pas qu'il n'apprécie pas les gens qui sont riches ou autre chose. Hein? Non, mais humble de cœur.
Il a oublié la veuve de la pièce pour du temps.
Ça aussi. Il a tout donné. C'est ça ce qu'il dit. Et là, on peut voir encore l'incarnation de Jésus-Christ. Comment il est venu? Dans l'humilité. Il est venu au monde dans une crèche. Hein? Il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Dans un village, éloigné des palais. Et l'annonce de l'Évangile, à qui a été annoncé d'abord l'Évangile? À des bergers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, allons. Tandis que Hérode, on lui a dit, on a vu une étoile, allez le voir et après vous me direz. Mais c'est pour le tuer, tandis que le berger dit, allons pour l'adorer. Les rois mages, hein, c'est, ils sont venus là, pour, on a vu l'étoile et on est venu pour l'adorer. Pas les adorer, hein, parce qu'on nous montre les rois mages qui sont devant Joseph, Marie et les petits. Hein? Mais les rois mages, ils sont venus quand Jésus il était déjà avancé. Et ils sont venus pour adorer Jésus, pas Marie et ni Joseph. Ils le virent et l'adorèrent. Pas ils les adorèrent, non. Ils l'adorèrent. Et c'est ça que Dieu, l'évangélisation. Vous savez, l'évangélisation, c'est pas pour des spécialistes. Bien sûr, il y a des évangélistes. Mais ce n'est pas pour les spécialistes. Ça veut dire quoi, évangéliser? Un peu ce que le Seigneur il a dit à ce pauvre homme qui avait été guéri. Rentre chez toi et dis à ta famille ce que le Seigneur a fait pour toi. Dis le changement de ta vie. C'est ça, évangéliser. Il faut dire ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il est Jésus, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fera quand il va revenir. Toutes ces choses. Et surtout, dire qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Voilà pourquoi c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas pour les forts, mais c'est pour les faibles, parce que la parole a été apportée aux faibles, aux humbles. Un riche, il ne se mettra jamais dans cette humilité. Un riche, il te dit quoi? Je n'ai pas besoin de Jésus. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais c'est à eux que l'Évangile a été annoncé. Il faut parler de Christ, tout simplement. C'est ça que Paul le dit. Et si on parle de Christ, c'est une manifestation de la puissance. Cette dynamite qui est en nous, la prédication de la puissance. Et c'est ça que le Seigneur nous dit de faire. Hein? Et vous savez, Paul, il était dans la crainte et dans le tremblement. Dans la crainte, pourquoi? La crainte des hommes qui n'arrêtaient pas de le poursuivre, de le fouetter, de le mettre en prison. Et les tremblements aussi, parce que chaque fois qu'il ouvrait sa bouche, voilà pourquoi il priait pour moi, afin que le Seigneur me donne l'assurance, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole puisse sortir et que je puisse annoncer. Voilà pourquoi Paul, il leur dit, ne vous fiez pas à la sagesse humaine. Mais regardez vers Dieu, faites confiance à Dieu. Ce n'est pas la sagesse, le langage, la sagesse du langage qui compte, mais c'est la prédication de la foi. C'est ça qui convainc. Parce que moi perso, ce qui m'a amené au Seigneur, c'est de savoir qu'il est mort à ma place.
Hein. Amen.
Qu'il m'a aimé avant. C'est ça. C'est pour ça que je me suis tourné au Seigneur, parce qu'il a donné sa vie pour moi. Et grâce à cette vie, je peux avoir cette vie éternelle. C'est ça la démonstration de l'Évangile. Voir la puissance de Dieu qui sort de chacun de nous. Et Paul, il dit, ce n'est pas l'esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de puissance. Et dans Esaïe, je crois que c'est dans Esaïe qu'il nous dit, ton Dieu, il t'ordonne d'être puissant. S'il est notre Dieu, si nous avons le Saint-Esprit, nous avons cette puissance. Et rien ne devrait nous empêcher de parler. C'est ça la puissance. Hein? Nous sommes invités à le faire. Et nous est dit dans 2 Corinthiens 6, à tous égards, recommandable. Voilà, recommandable, c'est le bon témoignage qu'on doit avoir. Vous savez, lorsque Paul il avait été arrêté, et le consul il voulait les fouetter, et il a dit, est-ce qu'il t'est permis de fouetter un Romain? Alors il a eu peur, il a voulu le chasser. Il a dit, non, ça ne fonctionne pas comme ça, mon ami. Tu m'as mis en prison, les gens ils savent que tu m'as mis en prison. Il a dit, maintenant tu vas déclarer que vous êtes trompé. Parce que sinon, il dit, tiens, Paul, il a été arrêté. C'est, voilà pourquoi il dit, recommandable vis-à-vis du monde, mais aussi recommandable comme serviteur de Dieu. Ça veut dire un témoignage, un bon témoignage. Hein, les diacres, lorsqu'ils ont été choisis, hein, ceux qui ont, ils avaient un bon témoignage, ils ont été choisis pour aider les apôtres. Et Pierre, il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et à la prédication, et pas à nous occuper à servir les gens à table. Voilà, les diacres, c'est les serviteurs. Mais il dit, recommandable comme serviteur de Dieu, par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous le coup, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les villes, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint. C'est les fruits de l'Esprit, n'est-ce pas? D'ailleurs, qui peut posséder le fruit de l'Esprit? C'est celui qui est Jésus-Christ. Et pas les autres, par un amour sans hypocrisie. Ah, je t'aime, Roland. Je sors dehors, hein, Roland. Hein. Il est bon à rien, là. Sans hypocrisie. Et il y en a beaucoup dans les églises, des hypocrisies. Hein. Hein? Comment? Par la parole de vérité. Hein, si on a Christ, on a la vérité. Que votre oui, que votre non soit non. On peut dire à un frère, à une sœur, écoute mon frère, ce comportement que tu as, c'est pas bien. Je te l'ai dit pour que tu puisses revenir et parler derrière. Ça ne sert à rien. Jésus il a dit, est-ce que quelqu'un a quelque chose contre toi? Va voir la personne. Ne parle pas avec les autres. Parce que les gens, ils parlent autour. Ah, tu peux me le dire, hein? Je serai bouche bée. Hein? Tu parles le lendemain, tout le monde le sait, hein, par la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives. Hein. C'est ça ce qu'il dit Paul. Nous sommes invités à vivre de cette puissance, parce qu'elle est à nous. Hein. Elle est à nous. Car il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui, pour vous, à raison de la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 13, verset 4. Ayant ainsi goûté à la puissance de Dieu par la conversion, les Corinthiens ils pouvaient expérimenter toutes ces choses, au lieu de se laisser dévier par toutes ces divisions, par tous ces gens qui apportaient des doctrines qui ne sont pas de la parole de Dieu. Hein? Les Corinthiens, ils croyaient être sages en écoutant tout ça, en partageant l'Église en secte de personnes. Mais ils étaient copétillés, il nous est dit au chapitre 3, j'aurais voulu vous donner de la bonne viande, des bons enseignements, mais vous ne pouvez pas les accepter. Vous ne pouvez pas les accepter, car vous êtes remplis d'erreurs. Et il nous dit, Colossiens 2, 8, il dit, prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître les mystères de Dieu. Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. De Colossiens 2, 2 et 3. Voilà ce que Paul il dit aux Corinthiens. Tous ces enseignements, toutes ces divisions, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Il y a la folie du langage, la sagesse du langage. C'est bon pour le monde, ça. Et les gens, ils disent que Dieu est fou, mais la folie de Dieu, il a porté le salut dans le monde. Faites confiance à Dieu.
Et puis, c'est pour ça que l'on tient. Ils avaient tous les dons de son ami, tout ce que vous voulez avoir, dans l'esprit, mais discernement, il y a là. Cet esprit nous donne du discernement. Et on voit que les gens au début, là, tous les sectes qu'il y avait dans l'église, tous les groupes, tous les complots, tous les machins, les divisions, c'est pas un discernement.
Mais cette épître, hein, la première épître aux Corinthiens, c'est ce qu'il nous parle de toutes ces divisions. On l'a vu la semaine dernière, que Paul, il avait entendu cela de la part de Chloé. Chloé, on l'a vu la semaine dernière, que c'était un commerçant, qu'il avait des gens qu'il envoyait dans d'autres pays. Et il y a des employés à lui qui avaient été à Corinthe. Et c'est ça qu'il leur a apporté. Et en Corinthien, parce qu'il y a eu, deux lettres Corinthiens qui sont, mais on ne les a pas. Mais c'est là, parce que les Corinthiens lui avaient demandé, et qu'est-ce qu'on doit faire ça, et qu'est-ce qu'on doit faire pour ça, et pour les mariages, et pour les divorces, et pour les dons, et pour la scène, et pour la viande, et tout ça. Tout est dans un Corinthien.
L'essentiel.
Et plus on avance, et plus on touchera toutes ces choses-là. Voilà pourquoi c'est une épître magnifique. Pourquoi? Parce qu'il nous montre la façon de nous comporter entre nous, envers Dieu et envers le monde qui nous entoure. Voilà pourquoi nous devons étudier la parole. Car c'est là que Dieu nous enseigne. Que Dieu bénisse sa parole.